Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour continuer avec vous le chemin que nous avions débuté la semaine précédente à propos d'une œuvre que j'affectionne particulièrement. J'ai nommé « L'homme armé, une messe pour la paix » du compositeur gallois Carl Jenkins. Alors comme je vous l'avais dit la semaine prochaine, je vais faire peut-être quelques redites pour ceux qui n'ont pas pu entendre l'émission précédente, mais il s'agit d'une messe au sens laïque du terme. En fait, il faut plutôt entendre cette messe comme une célébration. En effet, le compositeur avait composé cette œuvre, eh bien, dans le cadre des victimes de la guerre du Kosovo, donc c'est un hommage à ces victimes, et ensuite ça a été une commande de l'armée britannique pour le millénaire d'une de ses formations. Et donc, le compositeur, Carl Jenkins, a utilisé ce prétexte pour faire véritablement un hymne à la paix, et pour ce faire, dans cette œuvre, il a utilisé, il est vrai, des extraits de l'ordinaire de la messe, vous allez l'entendre, ce sont ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, mais également d'autres choses, des extraits de psaumes, des poèmes de Rudyard Kipling, d'un rescapé d'Hiroshima, ou encore l'appel à la prière musulmane. Donc, vous voyez quelque chose de très vaste, mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a utilisé du propre de la messe pour le mettre, lui, dans son œuvre, dans cet homme armé, qui est donc un manifeste très pacifique contre la guerre, et vous allez l'entendre, là aussi tous les artifices musicaux sont permis pour nous montrer qu'il est contre cette guerre et les horreurs que cela implique. Alors la semaine dernière, nous avions écouté deux morceaux, tous les deux absolument sublimes, le Kyrie et le Sanctus. Aujourd'hui, on va se diriger plutôt vers la deuxième moitié de l'œuvre avec deux extraits qui sont d'ailleurs un peu déstructurés. Alors le premier, il est à sa place à peu près, il s'agit de l'Agnus Dei, et le dernier, ça sera le Benedictus. Alors le Benedictus, lui, n'est pas à sa place puisque en principe, dans l'ordinaire de la messe, il suit le Sanctus. Donc en fait, j'aurais dû vous le présenter auparavant, mais lui, il a décidé de le mettre à la fin de son œuvre. C'est pas le dernier morceau, mais ça fait partie des derniers morceaux, mais vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant. Alors, sans plus attendre, on va maintenant s'attaquer à cette Agnus Dei. Je vais vous donner, comme d'habitude, quelques petites clés de lecture qui vont, je l'espère, vous donner à comprendre ce que le compositeur a voulu vous faire passer dans sa musique. Alors, on commence tout simplement avec des accords mineurs renversés, donc privés de basse. Donc, comme si on n'avait plus de racines avec les cuivres, qui semblent annoncer comme une marche funèbre. Alors, je vous parle déjà peut-être un petit peu chinois, des accords mineurs renversés. Alors, qu'est-ce qu'un accord mineur? En fait, vous savez qu'on oppose différents modes en musique. Le mode majeur, qui sonne comme étant quelque chose de beaucoup plus brillant. Par exemple, voici un accord majeur. Et voici le même accord en mineur. Et donc là, vous l'entendez tout de suite, quelque chose de beaucoup plus triste, de beaucoup plus intimiste. Et alors, cet accord, c'est bien entendu celui de la tristesse. Et donc, on commence avec un accord mineur. Et ensuite, j'ai un petit peu renchéri en disant un accord renversé. Alors, renversé, ça veut tout simplement dire qu'on va renverser les notes dans un ordre qui est différent. Quand on entend parler d'un accord, l'accord premier qui vient à l'esprit des gens, c'est l'accord parfait. Je vais vous le jouer ici en mineur. Voilà, l'accord parfait de Ré mineur. Et si on le renverse, là j'ai joué les notes Ré, Fa, La, Ré, eh bien on va tout simplement changer les notes et on va commencer par exemple tout en bas, la note la plus grave ne sera plus un Ré mais un Fa. Voilà, l'accord va se transformer, va ressembler à ça. Et on peut encore le renverser avec une première note qui est un La. Et donc voilà, il est possible de renverser des accords, on entend toujours les mêmes sonorités. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que c'est renversé? Tout simplement parce que quand on parle de marche funèbre, ce qui est l'ambiance de cette première œuvre, eh bien on attend une certaine forme d'assise avec une basse établie. Je vous la joue là. Sauf que là, le compositeur va aller totalement à l'encontre de cette façon de faire, il va renverser l'accord. Et en fait, il va faire comme si nous étions privés de nos racines. Et à mon avis, il met en avant, le compositeur, ce manque d'humanité qui nous prive de cette espèce de base humaine et qui fait qu'effectivement, les horreurs de la guerre sont bien présentes au début de cette Agnus Dei. Et donc, vous allez voir, c'est sur cette base-là que va se dérouler tout l'Agnus Dei. Alors, bien sûr, après, les accords vont s'enchaîner, ils vont pas tous être comme ça, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un premier accord comme ça, qui est presque amputé de sa base. Puis ensuite, quand vous allez entendre ça, alors ça c'est sur quelques mesures avec les cuivres qui semblent annoncer donc cette fameuse marche funèbre, et puis vous allez avoir les cordes et le chant qui vont se rejoindre dans une mélodie qui, elle, va être beaucoup plus joyeuse. Et là, on va avoir une sorte de fort contraste, peut-être, c'est comme ça que je l'interprète, entre le péché, qu'on entend avec cette marche funèbre, et la guerre, et également les paroles de l'Agnus Dei, « Prends pitié de nous ». Et en fait, ce thème va se faire à l'unisson, comme si vous, toutes les voix allaient se mettre ensemble pour former une même plainte. Et puis, quand le texte va se dérouler, « Quito lis peccata mundi », qui enlève les péchés du monde, à ce moment-là, pour la première fois, les voix vont se séparer dans un mouvement musical qui est post-romantique dans l'esthétique, parce que le but est de créer une vraie dichotomie entre l'horreur et le paradis. Donc, encore une fois, je le redis, les voix qui viennent s'opposer à cette marche funèbre. Je vous avais dit d'ailleurs la semaine dernière qu'il y avait plusieurs styles qui étaient convoqués, c'est pour ça que là je vous parle de post-romantique, on avait vu des choses un petit peu archaïsantes la dernière fois, voire baroque. Là ici il va y avoir un style beaucoup plus romantique pour essayer d'exprimer l'espoir, vous allez entendre, c'est assez flagrant d'ailleurs. Donc ensuite on va avoir une reprise de l'Agnus qui va être précédée de la trompette seule, et là moi je l'analyse d'une manière un petit peu différente, comme si c'était une sonnerie aux morts. Alors, c'est pas la vraie sonnerie aux morts, mais vous allez entendre, la trompette est très esselée, comme si elle sonnait dans un champ en ruine, jonché par les cadavres, et je trouve que là, l'image est très très forte. Donc, on reste bien dans un univers militarisé, comme en témoigne le nom de l'œuvre, hein, l'homme armé, et encore une fois, ce sont les voix qui vont venir contrebalancer l'ambiance morbide qui est installée par la marche funèbre, qui, elle, ne s'arrête pas de toute l'œuvre, elle avance implacable comme la mort, durant tout cet Agnus. Enfin, il y a une dernière sonnerie aux morts qu'on va entendre qui est doublée à l'octave et qui lui donne un aspect un petit peu plus lumineux, et puis une deuxième voix de trompette qui va lui donner un tout petit peu plus d'ampleur, comme si finalement l'espoir était permis. Et l'œuvre se termine avec le Dona nobis pacem, presque comme un cheveu sur la soupe. Il y a un peu d'espérance à la fin, c'est vrai, mais l'œuvre, on sent qu'elle est presque pas terminée et que la paix n'est pas encore parvenue aux auditeurs. Et de fait, c'est vrai, l'œuvre L'homme armé n'est pas encore terminée, mais ça laisse tout de même place à de la très belle musique. Voilà donc l'Agnus Dei de L'homme armé de Carl Jenkins.
Thank you.
Et c'est sur cet accord parfait, lui rassurant, de Do majeur que se termine cette Agnus Dei. Donc là aussi, c'est sa manière, je pense, au compositeur de montrer que parmi les affres de la guerre, il y a toujours un petit peu d'espérance qui est là pour le bien de l'humanité. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi le texte de l'Agnus Dei pour mettre en place ces artifices musicaux que je trouve très très bien sentis au vu du texte. C'est ça qui est très important. C'est non seulement d'avoir un texte qui est important et qui est une signification, mais là où le génie parle, c'est quand véritablement la musique et les paroles ne font plus qu'un et donnent un message qui là aussi transcende toutes les opinions et touche les gens. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait dans cette Agnus Dei et qui donne là aussi une très très belle envergure et à cette célébration, à cette messe, comme le dit le compositeur. Je trouve que c'est très très bien trouvé sur cette pièce-là. Et alors maintenant, on va se diriger vers un peu la fin de l'œuvre. Donc je vous le disais, ce n'est pas la toute fin, mais c'est l'une des dernières pièces et c'est très probablement la plus célèbre. D'ailleurs, c'est certainement la page la plus célèbre qui est écrite le compositeur, Karl Jenkins. Il s'agit de son Benedictus, une œuvre absolument géniale, monumentale et surtout d'une immense beauté qui, encore aujourd'hui, est capable de toucher les cœurs. Vous allez l'entendre non seulement par la musicalité, mais également par les petites clés que je vais vous donner. Là aussi, le compositeur a fait un véritable travail de fond extraordinaire pour essayer de mettre en avant tout ce que peut le génie de l'homme et de son âme. Alors on commence tout simplement par une longue plage de cordes avec un grand accord. Alors là, on va retrouver les accords parfaits majeurs. Alors on a commencé un accord amputé avec l'Agnus en ré mineur. Celui-ci, et là on va commencer avec un grand accord avec les cordes, donc là aussi une opposition entre les instruments. Avant c'était cette espèce de fanfare funèbre, et là vous avez les cordes qui vont donner une plage sonore avec un ré majeur, donc ça sonne comme ça. Donc là, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Vous allez l'entendre avec ces longues plages sonores qui s'étirent dans la longueur et qui sont absolument extraordinaires. En fait, dès le premier accord, vous allez l'entendre, on va être totalement suspendu. On est plutôt dans les registres graves d'ailleurs des cordes et ça va laisser place au chant. Et en fait, le premier chant que nous allons l'entendre, eh bien, c'est le violoncelle qui va le chanter. Et j'utilise bien à dessein le mot chanter. C'est un choix très important d'avoir choisi le violoncelle parce que on dit que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Et effectivement, le crin de la corde, il y a cet aspect un petit peu voix presque cassée, voix timide que l'on entend. Et il y a là un caractère de fragilité qui a été choisi. En plus, on utilise au début le registre aigu de l'instrument. Donc ça donne vraiment ce caractère de plainte. Et donc vous avez cette espèce d'état de béatitude qui existe au début de l'œuvre et avec ce thème qui est chanté par le violoncelle qui est absolument extraordinaire. Alors là aussi, d'un point de vue presque solfégique, je vous fais le petit cours tant qu'on y est, le compositeur utilise beaucoup d'artifices qui sont assez extraordinaires. Donc vous allez entendre, d'abord il va utiliser la bitonalité. Alors ça c'est extraordinaire, c'est le fait de mettre deux tonalités au même endroit. Alors ça peut choquer un petit peu les oreilles, mais vous allez entendre chaque choc en fait est résolu et c'est ça qui donne un aspect très apaisant. Donc vous allez entendre d'abord l'accord de Fa majeur et ensuite un accord de Mi majeur qui va se mettre dedans avec la basse de Ré qui va rester. Donc voici l'accord de Ré et on va rajouter celui de Mi et on va revenir au Ré. Il y a un caractère très apaisant et alors effectivement là s'il y a une petite tension qui se fait ici, eh bien, cette résolution est là pour nous apaiser. Et par-dessus tout, eh bien, il y a cette espèce de voix du violoncelle très apaisante. Qui là aussi passe par toutes ces tonalités. Vous allez entendre, donc d'abord comme si on était en ré majeur, ensuite en la majeur. Alors bien entendu, ce ne sont que des emprunts. Et là, on conclut cette espèce de petit chant, là aussi avec une espèce de truc, un petit tour que fait le compositeur. La basse de ré qui était en ré majeur va en fait servir de basse renversée pour l'accord de sol. Et ça va nous donner cet accord. Et on va passer en sol majeur, là aussi, une sonorité qui est extrêmement ample. Donc en fait, quand vous allez entendre... Vous Voilà, il y a cet aspect très apaisant et de cette basse de ré qui, là, cette fois-ci, est là pour venir nous rassurer. Ensuite, il y a beaucoup l'utilisation d'un retard. Alors, le retard en musique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand une note, je vous parlais de la résolution, vient faire tension et se résoudre. Par exemple, ici, la note que vous allez entendre en retard, c'est le mi qui va se transformer en ré dans le chant. Là aussi, on est toujours dans cette espèce de tension. Alors, c'est une tension qui est très très douce, hein. Il peut y avoir des tensions qui sont beaucoup plus vives en musique. Ici, elle vise uniquement à apaiser et montrer qu'on est dans un paradigme très différent depuis le début de l'œuvre, où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de marches militaires, les sonneries aux morts, etc. Là, au contraire, c'est très apaisant. Et donc, on a ensuite le violoncelle qui va regagner l'aigu, puis des contrechants qui se font entendre, non seulement au hautbois, puis ensuite à la flûte, et enfin au trombone à coulisses, mais chacun les uns après les autres dans un grand calme. Et ensuite, le thème est repris, et là, on est dans une atmosphère de nouveau post-romantique, presque, moi je dirais, post-apocalyptique, comme si on était dans un état, effectivement, de quiétude absolue, et l'utilisation quasi exclusive des cordes donne cette atmosphère très lisse. Et donc l'idée du compositeur, c'est l'idée de la paix, puisqu'on arrive dans les dernières pièces de l'œuvre. Et enfin, alors le thème est répété, hein, donc ça fait deux fois qu'on va entendre la même chose, et les voix vont s'élever sur le thème qui a été annoncé par le violoncelle. Alors d'abord, les voix aiguës, puis ensuite les graves, donc vous savez, les voix aiguës, d'abord, c'est souvent un thème un petit peu angélique, et le thème va se dérouler à l'unisson, comme une forme de communion finalement. Et enfin, sur le mot « dominer », Benedictus qui venit, donc béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et sur le mot Seigneur, une division va se faire entendre à l'octave qui va donner une impression de forme d'ampleur, comme si effectivement, sur l'évocation du nom du Seigneur, il fallait que la musique s'élargisse. Et puis les basses vont faire un tapis sonore, on va appeler ça une pédale, c'est ce que vous avez entendu au début, donc vous avez le ré qui continue. Donc la basse ne bouge pas et donc vous avez cette espèce de grande stabilité qui est donnée. En fait, ça donne une forme de base à la prière. Et là, c'est absolument magistral. Un grand coup de tambour va se faire entendre et le Hosanna va donner tout son souffle, toute sa puissance à l'œuvre conformément au texte. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna au plus haut des cieux, qui donne une impression mais de majesté absolue. C'est le chef-d'œuvre, dans le chef-d'œuvre, si j'ose dire. C'est absolument magistral, vous allez entendre. Ça donne cette impression d'immensité, d'éternité. Et puis, à la fin, soudainement, comme si l'ouragan venait de passer, eh bien le thème revient presque nu, avec les cordes comme au début, et le thème à l'unisson avec une réponse du violoncelle, selon le même procédé que nous avons entendu. Et à la fin, vous allez avoir cette espèce d'union entre le violoncelle et les voix, comme si, finalement, sur le dominé final, le seigneur final, il y avait une alliance entre l'instrument et la voix, comme une proposition de paix entre la technique et l'humanité. Voici donc le Benedictus de Carl Jenkins dans son homme armé. Voici qui conclut le Benedictus de l'homme armé de Carl Jenkins, une pièce absolument somptueuse. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce tour de cette œuvre vous a plu. Si ce que vous avez entendu vous a intéressé, vous a touché, eh bien, je vous invite à découvrir l'œuvre entière. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir d'autres œuvres. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Point d'Orgue.